Voix de femme.
Une émission du CIDFF et de Fréquence Mistral.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de l'émission Voix de femme, une émission avec le CIDFF 05, le Centre d'information des droits des femmes et des familles dans les Hautes-Alpes. À nos côtés aujourd'hui, Maître Priscilla Botrel, vous êtes bâtonnier au barreau des Hautes-Alpes. Bonjour.
Bonjour.
Avec vous, Maître Anaïs Clément-Gabella, vous êtes présidente de la commission victime au barreau des Hautes-Alpes. Bonjour à vous.
Bonjour.
Et bien sûr, avec nous, Angélique Lambert, vous êtes directrice du CIDFF des Hautes-Alpes. Bonjour Angélique.
Bonjour.
Alors, pour rappel, dans le premier épisode paru en janvier, vous étiez déjà avec nous, Angélique. Vous étiez accompagnée de Julie Moulin, coordinatrice au CIDFF 05. On avait pris le temps de définir ensemble les missions et raisons d'exister de l'association. Et puis, on avait survolé votre fonctionnement, notamment en lien avec des structures qui vous entourent. On avait évoqué votre accompagnement des femmes sur de nombreux aspects, celui des enfants qui sont des co-victimes aussi. Mais surtout, parmi ce qu'on s'était dit, on avait vu que l'origine de la création du CIDFF, c'était l'accès aux droits des femmes, c'est même dans le nom. Il y a d'ailleurs des permanences juridiques qui sont proposées chez vous au CIDFF. En tout cas, ça tombe bien, nous sommes bien accompagnés aujourd'hui pour parler de l'accès aux droits des femmes et aux droits des familles, puisque je le disais, Maître Botrel et Maître Clément Gabella, vous êtes avec nous pour en parler. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, peut-être qu'on peut commencer par définir vos rôles respectifs. Maître Priscilla Botrel, on le disait tout à l'heure, vous êtes bâtonnier au barreau des Hautes-Alpes. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Bâtonnier du barreau des Hautes-Alpes. J'ai été élue par mes confrères, donc 60 avocats au barreau des Hautes-Alpes. J'ai pour mission de représenter le barreau au quotidien vis-à-vis du palais de justice, vis-à-vis des instances représentatives du département, la préfecture, les associations, les députés, le sénateur. Et puis, je gère également les potentiels litiges qui peuvent intervenir dans la vie d'un avocat. Un litige avec un autre confrère, c'est très rare, mais ça peut arriver. Et puis également les potentiels litiges qui peuvent se poser entre un avocat et son client s'il y a un désaccord à un moment donné dans la gestion du dossier. Et puis j'ai aussi une mission de représentation et donc je peux être amenée à intervenir dans les médias sur des sujets divers et variés. C'est aujourd'hui les violences intrafamiliales et l'autorité parentale, mais je peux aussi intervenir sur une présentation du barreau, sur un moment donné de vie où on peut avoir des choses à dire, un moment de grève par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Le rôle du bâtonnier est un rôle assez diversifié.
C'est même peut-être surtout un rôle de lien avec le grand public.
Exactement, faire connaître le barreau des Hautes-Alpes, faire connaître l'activité des confrères, leur indiquer qu'ils peuvent faire appel à nous à n'importe quel moment, qu'on est accessible via la maison de l'avocat, via un site internet également sur lequel ils peuvent trouver un très grand nombre d'informations, que ça soit pour trouver un confrère, mais aussi des informations plus générales sur comment obtenir l'aide juridictionnelle, qu'est-ce que l'honoraire de l'avocat, etc.
Mais c'est bien votre rôle et non votre métier.
Non. Mon métier, avant tout, c'est d'être avocat.
Et vous, Maître Anaïs Clément-Gabella, je le disais, vous êtes présidente de la commission victime au barreau des Hautes-Alpes. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que c'est que cette commission ?
Alors, ça signifie représenter les confrères qui sont sensibilisés et formés à la défense des victimes, à l'accompagnement et à la protection des victimes. Donc, c'est un double rôle qui consiste à informer, sensibiliser, mais aussi accompagner sur le plan judiciaire les victimes. On a un rôle qui est différent de celui d'une association, où on va avoir un accompagnement qui va être finalement limité au temps judiciaire, bien que souvent ça débute un peu plus tôt que le temps judiciaire et ça dure un peu plus tard que le temps judiciaire. Mais on va pas empiéter sur le rôle des associations, par exemple. On va véritablement avoir un accompagnement sur le plan juridique avant tout.
Cette commission victime, est-ce qu'elle est nationale? Est-ce qu'elle est locale?
Ça n'est pas national, c'est un choix de notre barreau que d'accompagner de manière spécifique les victimes. Donc c'est une politique qui est menée par notre bâtonnier qui a choisi de développer la protection des victimes au travers de la réunion de confrères spécialement formés et sensibilisés à ces problématiques-là.
Ceci dit, je crois savoir que ce n'est pas nouveau, cette commission, ça a un peu d'ancienneté et ça a été remis en valeur récemment, c'est bien ça?
Tout à fait. Alors c'est une commission qui existe depuis un bon moment déjà, mais qui est redynamisée par une volonté publique, notamment avec un pôle victime au sein du tribunal. Le tribunal s'engage à travailler la question de la protection des victimes et nous associe à ce travail. Il y a également le même travail qui est fait en préfecture avec des réunions annuelles. On va aborder des thématiques et encore une fois les avocats vont être associés à tout ce travail visant finalement à travailler ensemble de manière transversale, c'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler avec les différents acteurs puisqu'une victime va rencontrer plusieurs personnes au cours de son périple entre guillemets et c'est une manière de travailler ensemble et de travailler surtout tous les axes puisque souvent une victime va être touchée sur l'aspect médical, social, sur le côté de l'emploi et on va pouvoir avoir une approche transversale avec un travail en partenariat entre les différents acteurs, ce qui n'existait pas avant. Auparavant, chacun travaillait dans son petit précaré, sur son domaine de compétences et ne rencontrait pas les autres acteurs. Et on s'est rendu compte que plus on discutait, finalement on parlait des mêmes personnes et que plus on faisait ce travail en collaboration et plus on pouvait progresser dans l'intérêt des victimes.
Parce qu'il est vrai que là, ces derniers temps, il y a une vraie volonté, c'est pas une volonté qui n'existait pas avant, mais aujourd'hui c'est accentué, il y a vraiment cette envie à travers les comités de pilotage qui sont réguliers, où on se rencontre au palais de justice, d'avoir des échanges sur les façons de faire. Il y a de vrais échanges d'expérience, en fait. Et chacun peut échanger sur les façons de faire. Et c'est dans ce cadre-là qu'on rencontre régulièrement les associations, dont le CIDFF, pour un peu débriefer sur les façons de faire. Et puis, des fois, se parler de comment améliorer les choses, comment être plus efficace, comment être plus rapide, comment avoir un contact plus fluide entre nous.
Angélique.
Juste pour compléter un peu, c'est vrai que sur la question de la prise en charge de la victime, nous, on est régulièrement en contact avec les avocats parce que on va venir rendre peut-être un peu plus compréhensible, un peu plus lisible ce que la victime, elle est en train de vivre. Les victimes, quand elles sont en plein chaos, c'est difficile pour elles d'expliquer, d'avoir la bonne analyse de la situation et le fait que, voilà, alors notamment le CIDFF, mais ou les autres associations, puissent être en lien direct avec l'avocat qui va prendre en charge la partie pénale ou les procédures au civil. Mais en tout cas, voilà, ça permet de décoder un peu et d'être au plus près de l'accompagnement de la victime en expliquant aussi parfois les comportements des victimes où on a du mal à comprendre parce qu'il y a de l'ambivalence, il y a des allers-retours, c'est pas toujours très clair. Le fait d'être en lien, ça permet de faciliter, je pense, la prise en charge de la victime.
Donc vous, Angélique, au sein du CIDFF, vous vous chargez justement de faire une sorte de lien avec tout l'aspect juridique qui peut être traité notamment au sein de la commission victime du barreau. Comment est-ce que vous interagissez? Comment est-ce que vous échangez entre le CIDFF et le barreau?
Sur le CIDFF, on a une juriste qui, elle, est sur simplement de la consultation juridique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, face à une situation, elle va guider la victime dans ce qui semble le plus adapté. Et ensuite, elle fait ce lien d'orientation de la victime vers un avocat, donc à partir de la liste des avocats du barreau. Le CIDFF n'a pas vocation à pointer spécifiquement un avocat du barreau, donc on donne la liste des avocats à la victime. Alors, le barreau, on échange au travers de rencontres, de réunions, ce que disaient Maître Botrel et Maître Clément Gabella, c'est qu'on a ces réunions de travail multipartenariales, mais on fait toujours ce lien de préparation du dossier, c'est-à-dire les pièces à préparer, à recueillir pour aller sur le montage des dossiers et des procédures. Donc on est dans ce lien-là avec les avocats. On est dans le lien aussi quand il y a des procédures et des jugements. C'est parfois difficile pour les victimes de comprendre finalement ce qui s'est joué ou ce qui a été décidé. Donc on fait un petit peu ce lien entre l'avocat et le CIDFF.
La liste des avocats qui est donnée aux victimes, est-ce que les avocats sont des avocats de la commission victime dont vous êtes présidente, Maître Clément Gabella?
Pas exactement. C'est-à-dire qu'on est à vocation à aller voir n'importe quel avocat en France. Hein, on n'a pas de choix. La personne a le libre choix de l'avocat. Ça, c'est très important. Simplement, en s'adressant aux avocats de la commission victime, la personne va savoir qu'il s'agit de personnes plus sensibilisées et formées. Mais tous les avocats du barreau des Hautes-Alpes ont vocation à répondre aux questions des victimes. C'est très important.
En sachant que, d'ailleurs, les victimes peuvent avoir accès à une liste des avocats de chaque commission du barreau via le site internet du barreau des Hautes-Alpes.
Elle peut aussi, si elle n'a pas d'accès internet, se rendre à la maison de l'avocat. Elle y trouvera une personne dédiée, puisqu'il y a une personne qui est là tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi, dans les heures ouvrables, hein, bien entendu. Mais je veux dire, elle peut à ce moment-là lui indiquer quelle est sa problématique. Alors à ce moment-là, on lui donnera plus spécifiquement le nom des confrères qui appartiennent à cette commission.
Pour terminer sur cette commission victime, on évoquait hors antenne qu'il y a une permanence téléphonique qui est tenue bénévolement par vos confrères, Maître Clément Gabella et Maître Botrel. Ils sont une vingtaine au total. Est-ce qu'on peut rappeler le numéro de cette permanence téléphonique ?
Tout à fait. Alors, il s'agit du numéro 06 85 45 12 26. C'est un numéro de téléphone qui est dédié. Et au bout de la ligne, vous trouverez un avocat qui, bénévolement, va répondre aux questions des victimes sur le plan juridique. Encore une fois, il ne s'agit pas de se supplanter aux associations. Hein. On ne va pas pouvoir trouver une solution dans l'urgence, mais simplement donner les premières indications, les premiers conseils. Souvent, ça va être d'orienter la personne vers les forces de l'ordre et de la convaincre d'aller se rendre auprès des forces de l'ordre pour expliquer ce qu'elle est en train de traverser, ou même de l'orienter vers les associations qui, elles, vont pouvoir intervenir, alors que nous avons simplement une approche juridique. Donc on va plus être un interlocuteur, un médiateur auprès de la victime.
Ça tombe bien, en parlant médiation, Maître Botrel, sur le site internet du barreau des Hautes-Alpes, vous parlez de votre conception du métier d'avocat et de l'importance que vous donnez à l'aspect médiateur qu'il peut y avoir dans des situations compliquées. J'imagine que dans des situations où il y a de la violence, c'est plus difficile d'avoir une posture de médiation et de conseil.
Effectivement, la médiation, parce que moi, je suis formée à la médiation et je suis avocat médiateur. C'est vrai que c'est une notion que je développe assez souvent. Enfin, en tout cas, dès que j'ai l'occasion de pouvoir parler et porter une parole un peu publique. Parce que pour moi, aujourd'hui, c'est une nouvelle façon de voir la justice. Et puis surtout, c'est une nouvelle façon d'exercer sa profession d'avocat. Et aujourd'hui, c'est dans l'air du temps, c'est le sens des textes, c'est de développer la médiation. Mais dans le cadre dans lequel on intervient aujourd'hui, qui est plus axé sur la victime et les violences, à partir du moment où on passe le cap des violences, c'est quand même très compliqué de faire de la médiation, parce que justement, la médiation, c'est d'avoir des relations apaisées pour essayer de trouver une solution sans avoir besoin forcément de faire appel à la justice. Or là, quand on a passé le cap des violences, c'est quand même compliqué de revenir à de la médiation et à des relations apaisées.
Angélique.
Et dans le cadre des violences, notamment les violences conjugales, alors il y a la relation qui n'est pas du tout apaisée, mais il y a la problématique de la domination, c'est-à-dire que quand les violences sont avérées, l'auteur, il y a une question de domination et il y a toute la problématique après de l'emprise et du contrôle coercitif qui viennent s'ajouter. Et du coup, la médiation, là, elle ne peut pas du tout s'envisager parce qu'une victime pourrait dire « Ok, je pars sur de la médiation », mais en fait, c'est toujours dans ce rapport de domination et dans cette relation d'emprise. Et du coup, la médiation, elle est complètement faussée et ça rajoute une violence sur la victime.
C'est un propos très juste, effectivement, parce que la médiation, ça suppose quand même de le faire de façon libre et éclairée. Et effectivement, quand on est une victime, la notion de libre et éclairée, c'est quand même un peu biaisé. Parce qu'effectivement, il y a toujours cette notion de l'auteur qui a une espèce de,
comment dire, d'emprise.
D'emprise, effectivement, sur sa victime.
Est-ce que ça peut arriver que vous refusiez à des victimes cette espèce de médiation, justement ? Est-ce que vous êtes en posture de leur dire « Non, là, ce n'est pas du tout le moment ».
Les choses sont très claires. À partir du moment où il y a de la violence, il n'y a pas de médiation possible. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Comme ça, ça clarifie les choses. Comment justement est-ce qu'on accompagne des victimes quand non seulement la médiation est tout simplement impossible, on l'a entendu, mais quand la situation de violence fait que c'est également impossible pour la victime de voir à nouveau l'auteur? Comment est-ce que se passe l'accompagnement dans ce cas-là?
Alors, le premier conseil qu'on va donner à la victime, c'est d'obtenir un cadre juridique, judiciaire. Et on va proposer à ce que les règles soient fixées par un tiers, un juge. Donc c'est le premier conseil bien souvent que l'on donne, que la personne puisse se protéger derrière une décision de justice.
Est-ce qu'on peut en profiter pour entrer dans le détail des étapes du parcours juridique d'une victime de violence intrafamiliale et conjugale ?
Donc une victime qui est victime de violence, donc ça va avoir une connotation pénale, ce qui signifie qu'il va falloir aller déposer plainte, que la personne, elle va certainement rencontrer un officier de police judiciaire à qui elle va pouvoir déposer son histoire. Et ensuite, les cartes sont entre les mains du procureur de la République qui va pouvoir décider de traiter d'une certaine manière la situation, donc soit rapidement en faisant en sorte d'arrêter l'auteur des violences conjugales, ou au contraire, va avoir besoin de temps pour que l'enquête ait lieu. Pendant tout ce temps d'enquête, c'est là que l'avocat peut véritablement jouer un rôle en saisissant la justice civile. L'avocat va pouvoir s'adresser soit au juge des enfants, soit au juge aux affaires familiales. Bien souvent, ça va être au juge aux affaires familiales, puisque le juge des enfants, on estime qu'il faut qu'il y ait une situation de danger sur l'enfant. Donc souvent, c'est l'entourage de l'enfant qui va être en capacité de saisir le juge des enfants. Et nous, on est bien souvent là pour le parent qui, lui, a besoin de l'intervention d'un juge aux affaires familiales. Donc le juge aux affaires familiales, il va pouvoir indiquer aux parties finalement quelles vont être les règles du jeu, s'agissant des décisions à prendre pour l'enfant, mais aussi s'agissant de son cadre de vie, de son mode de vie. Où est-ce que l'enfant va résider et à quelle fréquence l'autre parent, le parent violent, va pouvoir voir ou pas son enfant. Le juge aux affaires familiales, il peut être saisi de différentes façons. On peut le saisir dans l'urgence. Pour le saisir dans l'urgence, bien souvent, il faut avoir quand même déposé une plainte. Même si sans plainte, on peut quand même le saisir dans l'urgence, c'est quand même important qu'il y ait une plainte à un moment donné. Donc c'est là qu'on va avoir besoin des associations, parce que bien souvent, les personnes victimes n'osent pas aller déposer plainte, elles ont peur de représailles, et c'est à nous d'indiquer et de soutenir la victime pour qu'elle puisse à un moment donné quand même aller déposer plainte. Mais si la personne refuse de déposer plainte, tout n'est pas perdu, et il y a tout un tas de choses à faire. Donc on peut saisir le juge aux affaires familiales dans l'urgence, même sans plainte, c'est important à souligner. On va pouvoir le saisir dans l'urgence pour obtenir donc des mesures provisoires. Donc on peut obtenir des mesures pour 12 mois de manière provisoire et ensuite renouvelable. L'autre moyen de saisir le juge aux affaires familiales, c'est la procédure classique. Alors il faut savoir qu'à Gap, en ce moment, malheureusement, les délais sont assez longs. Il faut compter entre le dépôt d'une requête et l'examen de la requête par le juge un délai actuellement qui est de 10 à 12 mois. Donc c'est un délai qui est extrêmement long. On espère que ces délais vont pouvoir être réduits par un renforcement des moyens, mais la situation actuelle, elle est celle-là, à savoir que c'est extrêmement long. Donc bien souvent, l'avocat se retrouve avec des situations où bien qu'il y ait des violences, qu'il y ait des situations d'emprise, parce que l'enquête est en cours et qu'elle met du temps à aboutir, on se retrouve dans des situations où la personne victime est extrêmement fragilisée, puisque parfois elle a déposé plainte, l'enquête est en cours et le juge aux affaires familiales, on n'arrive pas à le saisir dans l'urgence, donc on attend de longs délais avant de pouvoir passer devant le juge aux affaires familiales. Donc c'est une situation extrêmement difficile et là, la personne va véritablement avoir besoin d'être accompagnée. L'avocat va avoir son rôle de manière ponctuelle, mais l'accompagnement au long cours, il faut souhaiter que la personne elle ait un entourage familial ou qu'elle ait la possibilité de se tourner vers des associations, parce que parfois, eh bien, c'est extrêmement long.
Je voulais juste rebondir sur ce plan-là, parce qu'effectivement, ce sont des délais qui sont assez, communs sur le plan national. Et même, je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, loin de là, mais Gap étant une petite juridiction, on arrive quand même, malgré tout, à avoir des délais. Alors, même si ce sont des délais très longs, hein, ma consoeur l'a dit très justement, mais ce sont des délais qui sont aujourd'hui encore considérés comme raisonnables par rapport à ce qui se fait sur le territoire national. C'est vous dire à quel point la justice aujourd'hui, elle est sinistrée et elle n'est pas forcément à la hauteur de ces enjeux-là.
C'est la structure et les moyens accordés à la justice qui font naître ces délais-là, si je comprends bien. Et vous, Angélique, au CIDFF, comment est-ce que vous accompagnez les victimes pendant ce délai ?
Alors, c'est très complexe, puisqu'effectivement, il y a la question, on va dire, du délai des procédures. La réalité pour une victime, c'est qu'elle vit ça au quotidien et que c'est la question de la parentalité. Ça complexifie l'accompagnement de la victime, puisqu'une victime sans enfant, on peut la mettre à l'abri, on peut l'éloigner, voilà, plein de choses sont possibles. Quand il y a la question des enfants en commun, là, c'est un vrai sujet. C'est très compliqué parce que je vais prendre les deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est la victime respecte la loi, continue à être en lien avec l'auteur, parce qu'effectivement, il y a les enfants en commun, avec tout ce que ça génère d'angoisse, de fragilité, de reviviscence, du trauma sur les violences, mais elle respecte. Soit, la deuxième cas de figure, c'est la victime, donc la femme, dit « pour moi, c'est pas possible, donc tant que la décision de justice n'arrive pas, je ne remets plus mon enfant ». Ça rajoute encore des difficultés, puisqu'on a parfois des auteurs qui vont déposer plainte contre la victime pour non-présentation d'enfants, avec des victimes de violences conjugales qui se retrouvent être convoquées en commissariat ou en gendarmerie. Donc je vous laisse imaginer l'accompagnement après dans ce contexte-là, mais qui est finalement le quotidien des accompagnements de CIDFF. C'est un vrai sujet. Et sur la question de la parentalité, se rajoutent aussi parfois les interprétations, les représentations aujourd'hui qui sont très présentes dans notre société sur la question de l'aliénation parentale et de l'enfant qui peut être utilisé par les parents, notamment par la victime, pour imposer finalement et régler quelque chose du conflit conjugal. Donc c'est un vrai sujet qu'il est nécessaire aujourd'hui d'approfondir et de communiquer, puisque l'aliénation parentale, ce n'est pas un concept qui existe réellement. Mais voilà, c'est vraiment très complexe. Donc la question du délai des procédures et des décisions aussi qui sont rendues après complexifie et fait toute la difficulté et le besoin quotidien d'accompagner sur l'individualité et sur la spécificité de chaque situation, de chaque victime.
Est-ce qu'on peut redéfinir rapidement ce que vous appelez l'aliénation parentale ?
C'est un concept, on pourrait en parler pendant des heures. Voilà. L'enfant est utilisé par un des deux parents pour venir atteindre l'autre, pour venir régler ses comptes. Alors je vous le fais en langage de comptoir et pas en langage de professionnel sociologique, psychologique. Mais c'est vraiment utiliser l'enfant pour atteindre l'autre et arriver finalement à une finalité qui va empêcher l'autre parent d'accéder à ses droits parentaux. L'enfant, de toute façon, il se retrouve finalement au milieu de tout ce chaos. Et j'ai envie de dire, mais c'est peut-être mon regard d'accompagnant des victimes. Mais alors, ça peut certainement arriver, certainement. Mais en tout cas, de l'expérience CIDFF et de l'accompagnement qu'on a au quotidien, une victime de violence conjugale, elle est tellement abîmée et elle est tellement anéantie avec plus d'estime de soi, plus de confiance en soi. Utiliser l'enfant pour aller atteindre son bourreau, on n'analyse pas ça. Voilà. Par contre, l'enfant, il se retrouve effectivement au cœur et il se retrouve l'enjeu de ce conflit et de ces violences.
On va pouvoir s'attarder sur la place des enfants dans tout ça, mais avant, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale parce que ça commence à faire un moment qu'on discute. Alors, on écoute Lou Doyon et son titre « Above My Head ».
Right above my head, no open skies, but ghosts of everything that's been down by everyone before. Is there room for one more? It's in every step I take and every smile I make. It's an I'll undo. Pretend you think you can take anything to escape. Do you think I ever do? Now I can barely see where I'm standing. Oh, could you please get out of my way? Now I can barely see where I'm
I think, how dare you? You're only the shadow of what they were, and it's better than you. Her stare and his over there, that's all I see. Is this good enough? Is this true enough for you, for me? Now I can't. Open skies, but ghosts of everything that's been done by everyone before. Is there room for one more? It's an every step I take and every smile I make. It's an all I do. Pretend you forget and take anything to escape. Do you think I ever do? No, I can't.
Bon retour dans Voix de Femme, l'émission en partenariat avec le CIDFF. Avec nous dans ce deuxième épisode, bien sûr, Angélique Lambert, directrice du CIDFF des Hautes-Alpes. Également parmi nous, maître Priscilla Botrel et maître Anaïs Clément Gabella pour nous parler de l'accès aux droits dans le cadre de violences conjugales et intrafamiliales. Avant cette pause musicale, on a commencé à parler de la présence des enfants et on a évoqué l'impact de cette présence dans les décisions de justice. Comment est-ce que les parents sont accompagnés dans une situation de violence intrafamiliale et conjugale, alors qu'on imagine quand même que la présence des deux parents est nécessaire et même requise auprès des enfants, même si un des deux parents est auteur de violence et l'autre est victime? Comment est-ce que les parents sont accompagnés au niveau juridique?
Alors, bien souvent, les violences, elles sont exercées par un parent envers l'autre et l'enfant, il est le premier spectateur de ces violences. La séparation qui va faire suivre bien souvent ces violences va nécessiter aux parents de continuer à prendre des décisions dans l'intérêt de l'enfant. Une des premières règles que la loi dicte, c'est que malgré la séparation, les parents doivent continuer à prendre des décisions ensemble dans l'intérêt des enfants. En présence de violences, ça n'est plus possible. On ne va plus pouvoir prendre ensemble des décisions dans l'intérêt des enfants. D'où l'intérêt d'obtenir parfois une décision de justice pour permettre aux parents violentés de se dispenser de l'accord de l'autre parent. D'où l'intérêt de saisir la justice pour obtenir du juge qu'il accepte que le parent violenté puisse exercer seul l'autorité parentale. Cet exercice de l'autorité parentale par l'un des deux parents va lui permettre de prendre des décisions importantes tout seul. Je donne un exemple, l'enfant doit être hospitalisé ou l'enfant doit suivre des soins, et bien le parent violenté va pouvoir prendre des décisions, faire suivre l'enfant sans aller obtenir l'accord de l'autre, puisque bien souvent le fait d'aller chercher l'accord de l'autre va impliquer une nouvelle mise en relation et un potentiel danger pour la victime. Donc on va chercher, et de plus en plus la loi nous y invite, à obtenir un exercice exclusif par l'un des deux parents, et bien souvent celui qui est victime de l'autorité parentale. Il y a une loi qui a été votée en mars dernier qui vient nous dire que de plus en plus fréquemment, on va pouvoir obtenir d'un juge un exercice exclusif par l'un des deux parents de l'autorité parentale pour éviter justement cet aller-retour de la victime entre son ancienne relation et sa nouvelle vie. Finalement, il a réussi à s'extraire du foyer conjugal dans lequel il était victime et il va pouvoir finalement s'en extraire plus facilement s'il n'a pas de compte à rendre à l'auteur et s'il n'a pas à solliciter de sa part des autorisations. Donc de plus en plus, eh bien, on va chercher à inciter la victime à obtenir cet exercice exclusif. Alors ce n'est pas évident, hein, parce qu'on a encore cet automatisme-là qui dit que malgré la séparation, on doit s'efforcer de maintenir la coparentalité, mais c'est le sens actuel des choses qui consiste à dire oui, mais pour pouvoir se protéger véritablement, il faut mettre un terme à la relation, et pour cela, il faut mettre à l'écart l'enfant et que le parent puisse finalement vivre sa vie, reconstruire sa vie avec l'enfant sans avoir à se tourner vers le parent violent.
D'ailleurs, tout à l'heure, Maître Clément Gabella, vous me disiez pendant la pause musicale qu'il est très important de pouvoir protéger d'abord le parent pour lui permettre d'être présent pour son enfant à nouveau. Sur le sujet de la parentalité exclusive, est-ce que c'est si facile que ça à obtenir ? Comment est-ce que ça se passe en pratique ?
Effectivement, le principe, c'est que l'autorité, l'exercice, il est conjoint. Donc, si on laisse les choses faire, eh bien, très vite, hein, le parent va être obligé d'aller contacter l'autre parent parce que à l'école, il va falloir signer de manière conjointe les évaluations scolaires. Donc, très, très vite, le parent violenté va être dans l'obligation de se rapprocher de l'auteur pour obtenir son accord sur certains documents. Donc, pour pouvoir éviter cela, eh bien, maintenant, le juge pénal, même le procureur de la République, à partir du moment où il va y avoir une plainte, va pouvoir décider d'un exercice exclusif de l'autorité parentale. Et le juge pénal qui va ensuite être rencontré par l'auteur va également pouvoir indiquer aux parents violents eh bien, qu'il se voit retirer l'exercice de l'autorité parentale. Donc très rapidement, finalement, dès la commission des faits, désormais, on va pouvoir se prononcer sur l'exercice de l'autorité parentale. Donc c'est quelque chose qui existait déjà, mais sur lequel les magistrats sont véritablement sensibilisés désormais. On doit aborder la question de la responsabilité pénale, mais également l'aspect familial. Qu'est-ce qu'il en est des relations familiales ? Donc ça, c'est quand même une nouvelle casquette que l'on donne au procureur de la République et aux magistrats en matière pénale. C'est que maintenant, il va falloir qu'ils s'intéressent à la vie de l'auteur, à la vie de la victime, mais aussi à la vie de l'enfant. On s'intéresse à la situation dans son entier parce qu'on a conscience finalement de l'impact que peuvent avoir les faits et la relation conjugale problématique, l'impact sur l'enfant. C'est vrai qu'on a des premiers réflexes qui consistent à dire attention, il faut respecter les deux parents, mais à l'inverse, on se rend compte des conséquences négatives et on se rend compte à quel point eh bien, c'est une question qui doit rapidement être abordée et qui doit être posée par tous les acteurs du milieu des victimes de violences conjugales.
Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont développé aujourd'hui au plan national des pôles vifs au sein des parquets, avec des magistrats, des parquetiers qui sont spécifiquement formés sur ces questions-là. Auparavant, les parquetiers étaient dans la sanction pénale et ils n'avaient pas forcément ces notions-là, en tout cas ces notions qui sont plus des notions qui sont manipulées au quotidien par le juge aux affaires familiales. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez au sein des parquets de chaque tribunal judiciaire un pôle vif, un pôle violence intrafamiliale, avec un parquetier qui est spécifiquement attaché à ce pôle vif et qui est spécifiquement formé, comme du côté des avocats, les avocats qui interviennent pour les victimes sont spécifiquement formés à ces questions-là.
Toute cette organisation est assez récente finalement ?
Ça existait déjà, simplement là on renforce les cas où on va devoir se prononcer. Si on ne souhaite pas statuer sur l'exercice de l'autorité parentale, il va falloir le dire. Mais sinon, de manière systématique, on va devoir aborder la question et se prononcer. Et si on ne souhaite pas finalement réduire les droits de l'auteur, l'exercice des droits de l'auteur, eh bien, il va falloir expliquer les raisons pour lesquelles on décide de ne pas réduire les droits du parent. Donc c'est finalement une forme d'inversement de la situation. Et jusqu'à présent, on abordait à la marge l'exercice de l'autorité parentale en laissant cette question au juge civil. Désormais, on demande prioritairement au procureur et au juge pénal de se prononcer sur la question.
Angélique ?
Alors moi, je suis enchantée, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais d'entendre ça. Après, toujours sur l'aspect prise en charge au quotidien des victimes, quand on parle de violence psychologique, de harcèlement, la victime, c'est très difficile de faire reconnaître ces violences-là. Et effectivement, aujourd'hui, la loi dit que pour poursuivre, il faut qu'il y ait suffisamment d'éléments qui viennent à un moment donné montrer, prouver. Et c'est très compliqué. Et sur une grosse partie des victimes qu'on accompagne, la question de la preuve, et de la matérialisation des faits reste complexe. Alors c'est bien, c'est une avancée au niveau des lois, mais après concrètement sur le quotidien et la pratique et l'accompagnement à la prise en charge des victimes, je mets un petit, peut-être à tort peut-être, mais on verra, mais un petit bémol sur l'impact que peut avoir ce changement au niveau des lois.
Maître Botrel.
Ne serait-ce que même sur un simple dépôt de plainte, on voit quand même que dans les faits, pour une victime, c'est même parfois difficile de déposer plainte. On voit que sur le terrain, il peut y avoir des difficultés rien que pour le départ, le dépôt de plainte. Et puis ensuite, toutes les preuves objectives qui doivent être ajoutées au dossier pour permettre de rentrer dans le champ de ces nouveaux dispositifs légaux.
Effectivement, et pour le CIDFF est aussi en lien avec le parquet, qu'on sait actif sur cette thématique-là. Mais nous, on exprime aussi les difficultés rencontrées. Souvent, même quand il y a un dépôt de plainte, ça va être classé sans suite. Non pas parce que le parquet n'a pas envie de prendre la mesure de la situation, mais parce qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments de preuve. Ça reste un vrai sujet.
C'est tout le problème de la rencontre entre un texte de loi et puis la pratique. Et en fait, le quotidien et ce qu'est la vie et ce que sont les justiciables et ce que sont les différentes situations qu'on peut rencontrer. Et c'est toute la problématique de la justice entendue au sens large.
Tout à fait. Et pour en revenir à la question de la place des enfants dans tout ça, qui effectivement vivent des situations dramatiques et avec de vraies conséquences et impacts sur leur développement et bien-être.
En tout cas, ça prend des tournures différentes, ça continue d'évoluer. Mais pour me faire l'avocate du diable, sans mauvais jeu de mots, ces prises de décisions plus rapides et plus fréquentes ont certainement également un impact sur la vie des auteurs. Vous évoquiez hors antenne, maître Clément Gabella, que parfois ils sont seulement soupçonnés, leur statut d'auteur n'est pas encore prononcé. Comment est-ce que ça se passe dans ce cas-là ?
Avant d'être avocat de victime, on est aussi avocat de manière générale et on est régulièrement amené à défendre également des auteurs, puisque en tant qu'avocat, on défend avant tout les droits de manière large et on est particulièrement sensibilisé aux droits des auteurs. Et effectivement, quelqu'un qui est mis en cause, rapidement, ça peut être une descente aux enfers parce qu'il se retrouve accusé de choses qu'il conteste peut-être. En plus de cela, eh bien, il va être privé de ses droits parentaux. Donc c'est une situation qui peut très facilement dégénérer parce qu'on le sait, il y a des personnes qui estiment être victimes alors qu'elles ne le sont pas véritablement. Donc c'est tout le travail de la justice de faire la lumière sur ce qu'il se passe. Mais avec ce renforcement des droits, eh bien, il y a un risque effectivement que des personnes basculent, finalement leur vie bascule parce qu'elles se trouvent accusées de violence et elles se trouvent finalement non seulement écartées de leur conjoint mais également écartées de la vie de leurs enfants. Donc ça c'est une situation qui peut être effectivement très difficile à vivre pour l'auteur mais également pour l'enfant qui lui aussi est témoin de ce qui a pu se passer, il peut avoir un avis sur ce qui a pu se passer. Donc c'est une situation, il faut être vigilant tout de même. Et en cela, eh bien, je pense qu'il faut que les personnes puissent être assistées d'un avocat, sans vouloir prêcher pour ma paroisse, mais pour pouvoir se défendre, expliquer ce qu'on a pu vivre et rétablir la vérité. Et rapidement, également, la personne qui est mise en cause, l'auteur, peut saisir lui aussi le juge aux affaires familiales, qui est quand même le magistrat spécialisé sur la question, qui est le plus sensibilisé. Et rapidement, même si un juge pénal a pris une décision, il va falloir qu'il se devienne acteur de la procédure en saisissant lui-même, avec l'aide d'un avocat, je le conseille bien évidemment, il saisisse le juge aux affaires familiales, le juge spécialisé de la question, et pour qu'il ait, avec recul, qu'il prenne la meilleure décision dans l'intérêt des enfants. Donc il faut véritablement que la personne visée par les accusations se mobilise autour de sa défense et explique la situation telle qu'elle la vit, elle, pour que le juge puisse se prononcer en toute sérénité.
Maître Botrel.
Je voulais juste peut-être rebondir et insister un peu sur la spécificité du juge aux affaires familiales qui, lui, a cette spécificité qu'il doit toujours rendre une décision dans l'intérêt de l'enfant. C'est toujours l'intérêt de l'enfant qui va primer sur tout le reste. Ce n'est pas forcément le même placement dans un cadre pénal.
On l'a compris, donc le fait qu'il y ait des enfants, ça a un rôle déterminant dans les décisions de justice. Pour terminer sur ce sujet, est-ce que leur parole est prise en compte ? Comment est-ce que c'est reçu aux yeux de la loi ?
chaque enfant a le droit d'être entendu dans le cadre d'une procédure qui le concerne directement. Il y a un texte de loi qui le prévoit, c'est-à-dire que l'enfant qui a un discernement suffisant a la possibilité d'être entendu. Il ne s'agit pas pour lui d'avoir un pouvoir véritable sur la décision, mais simplement d'être écouté et entendu. Donc sa voix doit être prise en compte. La loi, pour définir l'enfant qui est capable de discernement, ne dit pas précisément à partir de quel âge est-ce qu'on a un discernement ou pas. Il n'y a pas d'âge précis, mais de notre pratique, on peut estimer que le discernement intervient au-delà des 8 ans. 8-10 ans, on considère que l'enfant a un discernement suffisant qui va lui permettre d'exprimer ce qu'il ressent par rapport à la situation qu'il est en train de traverser. Et le juge va le recevoir individuellement, en dehors de l'audience de ses parents. Ça, c'est très important à souligner parce qu'on s'imagine toujours que finalement, l'enfant va être une véritable partie au procès. Pas du tout. Mais il va être écouté et sa voix va être prise en compte comme un élément parmi d'autres dans la prise de décision. Et comme le disait très justement Maître Priscilla Botrel, le juge aux affaires familiales, il se place à un niveau différent des autres juges. Véritablement, c'est l'intérêt de l'enfant qui est son angle, son regard finalement sur la situation. Il va essayer de se placer à la hauteur de l'enfant et savoir quelle est la meilleure décision.
Et là, je rebondis puisque en termes de commission, il est important d'indiquer qu'on a également une commission mineure avec des confrères qui sont formés à toutes ces problématiques-là et notamment à intervenir aux côtés des mineurs lorsqu'ils doivent être entendus ou ils sollicitent d'être entendus par le juge aux affaires familiales. Ils peuvent être assistés par un avocat qui sera désigné au sein de cette commission mineure, qui sera spécifiquement formé à cet accompagnement-là, parce qu'il est vrai qu'un avocat, lorsqu'il assiste un mineur, c'est encore un autre exercice. C'est pas la même chose que d'assister une personne adulte, que ça soit un auteur ou une victime, peu importe. Mais je veux dire, c'est pas tout à fait le même placement. On n'est pas véritablement là, quand on a un mineur en face de soi, on n'est pas véritablement dans le conseil, mais plutôt dans l'assistance et plutôt dans le soutien pour lui permettre de pouvoir dire ce qu'il a à dire au juge en toute simplicité et puis surtout en étant à l'aise, parce que pour un enfant c'est toujours une épreuve que d'aller voir un juge. Il est vrai que quand le juge aux affaires familiales entend le mineur, il porte pas la robe, c'est beaucoup moins solennel, on n'est pas dans une salle d'audience, on est dans le bureau, enfin quand même c'est un peu solennel, un peu particulier, et donc véritablement l'avocat, lorsqu'il assiste en mineur, il doit avoir toutes ces notions là en tête. Je rebondis là-dessus en vous indiquant que le barreau des Hautes-Alpes a aussi une commission mineure avec des confrères qui sont parfaitement rompus à cet exercice très particulier. C'est important de l'indiquer.
Angélique, vous voulez rajouter quelque chose ?
Sur la sphère parole de l'enfant, il faut aussi rappeler que dans le cadre des enfants qui grandissent et qui vivent dans un contexte de violence conjugale, donc violence intrafamiliale, aujourd'hui les professionnels, quand ils ont accès à cette connaissance-là, étant donné que la loi reconnaît l'enfant maintenant comme étant co-victime, en tant que professionnel, on a obligation de signaler, de faire un signalement, soit à la CRIP, cellule de recueil des informations préoccupantes qui est rattachée à la protection d'enfance, soit directement au parquet. Et effectivement, ça peut aussi diligenter des auditions des mineurs. Donc là, c'est encore particulier puisque ce sont des auditions filmées qui peuvent être réalisées, qui doivent être réalisées dans des salles spécifiques. Mais ça pose vraiment la question là aussi de parfois l'enfant parle et au regard de son âge, il est petit ou son discours va être très clair. Mais du coup, se revient à nouveau la question de mais est-ce qu'il répète pas finalement les paroles qu'il a entendu. Voilà, c'est très complexe la question de la prise en charge de la parole des enfants. Là aussi, nous, quotidiennement, on voit que c'est un vrai sujet et c'est important que tous les professionnels, comme vous le disiez au début, communiquent, travaillent ensemble d'une même voix pour essayer effectivement de rassembler tous les éléments recueillis et essayer d'amener les magistrats à prendre les meilleures décisions et de façon les plus éclairées possible en ayant le plus d'informations, mais ça reste aujourd'hui la parole des enfants très compliquée. L'enfant parle, mais parfois n'est pas entendu.
Malheureusement, oui.
Voix de femme.
On a balayé très largement le sujet de la présence des enfants, mais les violences intrafamiliales sont aussi, voire peut-être surtout, des violences conjugales. Bien sûr, quand on pense aux violences conjugales, on pense essentiellement aux femmes qui sont accompagnées, d'autant plus que c'est une émission en partenariat avec le CIDFF. Est-ce qu'il y a aussi des cas où des hommes sont accompagnés ? Comment est-ce que ça se passe dans ce cas-là ?
Alors, sur la partie CIDFF, effectivement, on ne pratique pas de discrimination. Donc, on a des messieurs qui sont victimes de violences et qui peuvent être accompagnés par le CIDFF. Après, on rejoint les statistiques nationales et mondiales. Hein, clairement, en proportion, les femmes sont largement plus victimes de violences que les hommes. Mais ça peut exister.
Ça existe et je pense que c'est quand même important aujourd'hui dans un contexte où on peut dire que on donne peut-être plus d'importance aux femmes qu'aux hommes. Bon, c'est important, je pense quand même, de dire que les victimes peuvent être des hommes comme des femmes, même si effectivement les chiffres, qu'ils soient nationaux ou mondiaux, indiquent quand même que le plus souvent, ce sont les femmes qui sont victimes de violences.
Pour rebondir, je crois que de manière général, ce qui compte, c'est la libération de la parole. Lorsqu'on est victime d'une situation difficile, eh bien, il faut parler, que ce soit à des associations, à un avocat. Voilà, c'est vraiment tout ce travail-là et je crois qu'on a vraiment évolué. Madame Lambert l'évoquait tout à l'heure, lorsqu'on prend en compte la parole des enfants, il y a une véritable évolution dans la capacité pour les forces de l'ordre à entendre lorsqu'une personne se déclare victime. Il y a vraiment une évolution. Avant, régulièrement on voyait des personnes qu'on invitait à revenir plus tard. Maintenant, il y a un effort qui est fait pour prendre l'audition assez rapidement et surtout par des personnes spécialement formées. Oui. Donc il y a une nette évolution en la matière, que ce soit pour les hommes, pour les femmes et pour les enfants.
Et au sein des forces de police comme de gendarmerie, il y a aussi des officiers qui sont spécialement formés sur la question des violences intrafamiliales, comme je vous le disais tout à l'heure, au sein du parquet ou même au sein des avocats. Aujourd'hui, on spécialise véritablement les gens sur la question. L'idée, c'est véritablement que la personne victime puisse rencontrer des gens qui sont au fait même des difficultés, qui connaissent les textes qui s'appliquent, qui connaissent les spécificités de tout ça, parce que effectivement, le contexte est tellement particulier que ça peut pas être pris en charge par n'importe qui, n'importe comment.
Pour vous donner un exemple concret, la personne qui est victime va se présenter à la première brigade de gendarmerie la plus proche de chez lui. Il va se présenter, il va souhaiter déposer une plainte et rapidement, le procureur va être en informé et va pouvoir redistribuer entre guillemets le dossier et faire en sorte que cette personne-là, elle soit entendue immédiatement, mais aussi peut-être plus tard par une personne mieux formée. Donc il y a vraiment cet effort-là. Avant, on aurait pris simplement la plainte et on aurait continué l'enquête. Là, non, on va faire en sorte que la personne, quitte à ce qu'elle soit entendue plusieurs fois, puisse être entendue dans les meilleures conditions que possible.
Est-ce qu'il y a une formation à l'écoute, à la réception de ces témoignages-là ? Est-ce qu'il y a des évolutions sur comment recevoir tous ces témoignages ?
Alors nous, au niveau CIDFF, bien sûr qu'on est formé sur tout ce qui est l'écoute active, c'est-à-dire savoir recueillir la parole d'une victime, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire, quelle posture, voilà. Le CIDFF est certifié Calliope, donc on peut effectivement dispenser des formations pour d'autres professionnels sur la thématique du recueil de la parole et de la prise en charge d'une victime, savoir comment accueillir, comment écouter, vers qui orienter, donc c'est possible. Aujourd'hui, effectivement, il y a une nette évolution sur cette thématique-là de recueil de la parole et d'accueil des victimes, et notamment commissariat gendarmerie. Après, il y a encore du boulot, hein, je suis navrée de, de le dire comme ça, mais ça reste un vrai sujet là aussi. La volonté y est, à la fois au niveau des politiques nationales, des politiques publiques. Sur notre territoire, on a vraiment beaucoup de chance parce que effectivement, on a que ce soit le tribunal via voilà le parquet, via le siège, le barreau des avocats, la protection de l'enfance, vraiment tous les acteurs de terrain, les associations ont cette volonté de progresser finalement dans l'accueil et la prise en charge des victimes. Voilà, il y a encore du travail et c'est normal. On n'est pas non plus dans des situations idylliques. On a encore aujourd'hui parfois des refus de prendre des plaintes. On a encore parfois des dépôts de plaintes qui se passent pas bien. Mais on a aussi la chance sur le territoire d'avoir côté gendarmerie la maison de protection des familles où ce sont des gendarmes qui sont spécifiquement formés et qui sont un véritable soutien. Et au commissariat aussi, on a des personnes qui sont formées. Après, ça reste un nombre, on va dire, restreint. Mais ça existe et ça ne peut que s'améliorer.
Oui, c'est encore, on en est encore au balbutiement quand même, parce que c'est quand même des politiques qui sont encore très récentes. Oui. Et puis après, il faut quand même être un peu terre à terre, je pense. C'est aussi des questions budgétaires pour pouvoir permettre de mettre en place de telles politiques qui sont forcément coûteuses, puisque quand il faut former de façon spécifique toute la chaîne des intervenants, il faut forcément avoir l'enveloppe. Et bon, aujourd'hui, la situation de notre pays est telle qu'on la connaît. Et donc, il est vrai que d'un point de vue budgétaire, c'est quand même compliqué.
Effectivement, l'enjeu, c'est la question de la formation, de toute façon. C'est vraiment accompagner les professionnels, les former, les outiller aussi. Mmh. Et puis, c'est la question toujours, merci de nous donner la parole, parce que le fait de communiquer pour le tout public, on va dire, ça permet aussi de faire réfléchir aussi sur les représentations qu'on peut avoir, parce que finalement, la question des violences intrafamiliales, c'est la sphère privée, on ne sait pas trop ce qui se passe, on ne comprend pas trop, et si on n'est pas outillé, on a parfois aussi des comportements de victimes qui peuvent donner un message pas très clair, parfois ambivalent. Donc l'enjeu, c'est vraiment la question de la formation des professionnels et de la communication aussi sur cette thématique.
Avant de conclure, du côté des victimes, est-ce qu'elles connaissent leurs droits quand elles entament un parcours juridique et comment est-ce qu'elles le vivent? Parce qu'on imagine que c'est quand même un parcours assez dense et intense.
Alors, on se rend compte que les personnes qui viennent nous voir, elles ont tout un tas d'informations, notamment grâce à Internet. Donc, elles sont souvent bien renseignées lorsqu'elles arrivent dans nos cabinets. Néanmoins, ce qu'elles apprécient moins, c'est tout ce que cela recouvre, l'engagement que cela représente que de mener un combat sur, j'utilise ce terme qui est un peu violent, mais moi, volontairement, je l'utilise, un combat sur le plan judiciaire, parce que ça nécessite des vraies qualités de pouvoir tenir sur le long terme, de savoir comment se comporter. En cela, l'avocat va être précieux pour la victime, pour pouvoir finalement mettre en œuvre les outils juridiques adaptés de manière à faire entendre sa voix.
Que je pense qu'aujourd'hui, la problématique qu'on peut avoir avec tout le développement Internet, c'est très bien. Je veux dire, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Mais je pense qu'on a trop d'informations. Et qu'ensuite, du coup, la personne, je m'imagine, lorsqu'elle est victime, elle a tout ce flot d'informations. L'idée, c'est de quoi en faire, où est-ce que je vais. Parce qu'en fait, tout ce flot d'informations, c'est un peu comme ça, un peu foutraque. Et ce n'est pas forcément adapté à votre situation. C'est de dire que toutes les situations sont particulière et que donc du coup il faut adapter à la personne qu'on a en face. Donc c'est pas le tout d'avoir accès aux informations, c'est après de les trier, de savoir quoi en faire, de savoir où est-ce qu'on se situe et quel outil je vais utiliser plutôt qu'un autre. Et là, pour le coup, l'avocat a tout son rôle à jouer, puisque son rôle justement, ça va être d'analyser votre situation à vous spécifique et de donner les outils qui sont adaptés à votre situation. Voilà. Donc c'est pour ça que les gens, lorsqu'ils viennent me voir en disant « Oui, mais alors, j'ai vu sur Internet, j'ai le droit à ci, j'ai le droit à ça », je dis toujours « N'allons pas trop vite quand même, prenez rendez-vous, venez me voir, amenez-moi vos pièces », et on regarde, on analyse. Et pareil, je pense que l'avocat a encore toute sa partition à jouer via les intelligences artificielles, un chat GPT ou quoi, vous dira ce qui vous fait plaisir, mais ça ne sera pas forcément avec l'analyse d'un avocat qui est spécifiquement formé. On est formé, on a les notions, on connaît notre tribunal, on a les notions jurisprudentielles, etc. Donc rien ne vaut le conseil d'un avocat. Vous pouvez vous rendre sur Internet et avoir les premières informations, mais ensuite, il faut affiner ça avec un vrai professionnel.
La question de la relation entre la victime et l'avocat, elle est essentielle. C'est-à-dire que l'avocat, bien sûr, il il y a toute la compétence, on va dire, juridique, sur les procédures, voilà, effectivement, tout ce que vous venez de dire. Mais l'avocat, il a aussi un rôle de réassurance. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est lui qui doit être aussi, on va dire, le chef d'orchestre et savoir rassurer la victime en disant, voilà, là, il y a des échéances. Là, dans la procédure, ça va être plutôt calme, donc il n'y a pas besoin de s'agiter. C'est aussi savoir recadrer aussi parfois la victime et dire, non, là, vous ne partez pas dans le bon sens, on se recentre. Donc, cette relation victime-avocat, elle est essentielle. Et autant nous, on joue notre partie d'accompagnement de la victime sur toutes les autres sphères, mais sur la partie procédure, c'est essentiel. Cette relation, elle est essentielle et c'est ce qui permet sur le long terme. Maître Clément Gabella, vous disiez le mot combat. Nous, quand on prend en charge une victime, on dit, bon, ben là, ça va être la guerre. Va falloir y aller, va falloir tenir, va falloir se battre, va falloir prendre voilà, les bonnes armes. Alors bien sûr, attention au second degré, bien évidemment, mais c'est pour ça que la relation avocat-victime, elle est essentielle.
Moi, je voudrais rajouter, l'avocat, il a plusieurs casquettes et il me semble qu'une des casquettes, c'est de traduire en termes adaptés le code de la justice et le fonctionnement. Donc c'est vraiment un des premiers rôles, c'est d'expliquer à la victime les choses dans un langage qu'elle va comprendre. Ça, c'est le premier rôle, un travail pédagogique de l'avocat. Et l'autre casquette de l'avocat, c'est aussi d'endosser une certaine responsabilité et finalement de protéger la personne et de dire, ben voilà, maintenant tout l'aspect juridique, ça va être l'avocat qui va s'en charger et vous allez pouvoir penser à vous. Voilà, c'est un peu l'autre casquette qui me semble très important, c'est que la personne puisse se décharger sur l'avocat de tout un pan de sa vie et qu'elle puisse se recentrer sur elle et sur sa vie de famille.
Une relation de confiance qui est très importante.
Mais c'est l'essentiel. Obligatoire. La relation entre un client et son avocat, et encore plus quand le client est une victime, dans un contexte de violence, c'est la confiance, effectivement. Le respect du secret professionnel, bien entendu, tout ce qu'on va pouvoir lui dire. Voilà, parce que c'est là, pour le coup, avec son avocat qu'on va pouvoir tout dire. Et notamment quand on est aussi sur des contextes de violence sexuelle ou quoi, effectivement, c'est important d'avoir en face quelqu'un de confiance, qu'on sent solide et professionnel.
D'où parfois on a des victimes qui changent d'avocat.
Et oui.
Parce que c'est aussi la rencontre à un moment donné d'un professionnel et, voilà, et d'une victime. Et c'est une vraie rencontre. Ça doit être une vraie rencontre. Un peu comme quand on va chez le psy.
Ah oui, ça peut arriver. Et je pense que ça arrive à tout avocat. Et ce n'est pas forcément lié à ses compétences professionnelles. C'est simplement qu'à un moment donné, voilà, humainement, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas tilté. Voilà, ça arrive, hein.
On va arriver au bout de cette émission, mesdames. Alors, comme mot de la fin, je voulais vous demander, est-ce que vous arrivez à garder une distance, une neutralité face à des situations qui peuvent parfois être très difficiles à entendre ? Comment est-ce que vous gérez ça ?
Alors, je parle de mon point de vue. Moi, c'est arrivé avec l'expérience. Dans un premier temps, en débutant ce métier, je me suis laissée régulièrement déborder par les émotions et par les vies qu'on pouvait croiser. Et puis, avec l'expérience, on arrive à se mettre à distance. Et je crois que c'est un point positif, cette mise à distance, c'est nécessaire. Sans cela, on a trop d'empathie et on n'est plus capable de prendre le dessus et de prendre les bonnes décisions. Donc voilà, c'est quelque chose, c'est très personnel, hein. Encore une fois, je crois que chacun fonctionne différemment. Mais de mon point de vue, voilà, c'est véritablement l'expérience qui me permet de prendre cette distance nécessaire pour mieux défendre.
Les années font effectivement que on a rencontré une multitude de gens, une multitude de dossiers, on a eu une expérience, on connaît mieux le juge, on connaît le tribunal, on connaît la jurisprudence, les textes, et donc forcément on est plus à l'aise, et puis on est aussi peut-être aussi plus à l'aise pour dire non, par exemple pour dire non, ce dossier-là je ne vais pas le prendre parce que à ce moment-là non, je ne vais pas être en capacité de vous assister comme il se doit, voilà. Mais tout ça, c'est l'expérience professionnelle qui nous permet d'appréhender tout ça. Et puis après, c'est aussi une question de personnalité, oui, effectivement, puisque vous avez des gens qui sont plus ou moins sensibles, qui sont plus ou moins qui fonctionnent plus ou moins à l'affectif, voilà. Donc bon, tout ça fait que selon les gens, ça peut être tout à fait différent. Mais je rejoins Maître Clément Gabella quand elle dit que l'expérience
permet de prendre un peu de hauteur sur tout ça.
Angélique, vous confirmez ?
Alors, je confirme, et au fil des années, on entend souvent chez les travailleurs sociaux parler de la bonne distance. En fait, moi, aujourd'hui, je parle de bonne proximité. Parce qu'effectivement, si on est trop collé à la personne qu'on accompagne, on ne va pas l'aider. Et être un bon professionnel et qui va pouvoir aussi tenir sur la durée, c'est la question de la bonne proximité. Donc, je suis là, mais je sais me tenir à distance, donc j'ai une bonne proximité.
On va pouvoir s'arrêter sur ces paroles, l'heure va sonner pour nous. Merci beaucoup, maître Priscilla Botrel. Merci beaucoup, maître Anaïs Clément-Gabella. Et bien sûr, merci beaucoup, Angélique Lambert, d'avoir été présente et d'avoir pris le temps, toutes les trois, de nous parler en surface, parce que c'est un sujet très vaste, du droit quand il s'agit des violences intrafamiliales et conjugales. Angélique, je vous dis à dans 2 mois pour un 3e épisode. Mesdames, encore merci.
Voix de femme. Une émission du CIDFF et de Fréquence Mistral.
Fréquence Mistral.